Vous écoutez, on lit pour vous.
Ruée vers l'œuf au pays du soufflé. Un texte de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 25 janvier 2026 dans la presse. Cocorico! Si le coq est l'emblème de la France, c'est plutôt de poules qu'elle aurait actuellement besoin. Le pays des soufflés, des flancs et de la meringue fait face à une pénurie d'œufs depuis plusieurs mois. Les experts montrent du doigt la popularité croissante de cette protéine abordable, conjuguée à la stagnation du nombre de poulaillers et aux effets de la grippe aviaire pour expliquer le phénomène devenu une vraie préoccupation nationale. Des agriculteurs suggèrent même le retour aux cages pour augmenter la production. « Promis, nous aurons des œufs jeudi », assure une affiche dans une épicerie bio de l'avenue La Cassagne, totalement dévalisée. Dans un autre commerce, Cour Gambetta, on fixe une limite à une douzaine par client, faute de stock. Cyril Poncet exploite un poulailler de 850 poules pondeuses en périphérie de la ville. Depuis quelques mois, il est inondé d'appels frénétiques. Une véritable ruée vers l'œuf. Des épiceries, des gens qui veulent en vendre sur les marchés, des gens dont les fournisseurs ne les fournissent pas, des supermarchés, explique-t-il à la presse en entrevue téléphonique. On ne peut pas prendre plus de monde. Déjà, mes clients habituels en prennent plus que d'habitude. On avait déjà ressenti ça l'hiver passé, mais moins fort, quand même, ajoute-t-il. Au marché de la place Ambroise-Courtois, dans le 8e arrondissement, le kiosque du producteur de volailles Saint-Michat a encore des œufs à vendre. C'est qu'il se fournit directement chez ses voisins à la campagne. Quand ce sont de petits éleveurs, ça va à peu près, mais quand c'est pour la grande distribution, il y a des problèmes, explique Jérémy. Ses clients sont contents d'en trouver. Ceux qui vont en grande surface n'en trouvaient pas trop. Des ruptures d'approvisionnement énormes. Ces derniers n'ont pas la berlue. À hauteur de 13,3% depuis le début de l'année, les œufs sont la catégorie de produits alimentaires affichant le plus fort taux de rupture, explique l'analyste David Lecomte de la firme de recherche Nielsen IQ sur les réseaux sociaux. Un taux de rupture correspond à la fréquence à laquelle un client se bute à un étalage vide. Un chiffre énorme, selon M. Lecomte, puisqu'un taux de rupture normal et acceptable est normalement de l'ordre de 2% dans les supermarchés. En cause, une hausse importante de la popularité des œufs. Une augmentation de plus de 6% en matière de quantité vendue en 2025 par rapport à 2024. Les ventes totales en euros ont cru de plus de 8%. En période de fragilisation du pouvoir d'achat, l'œuf est un produit accessible, facilement déclinable en recettes et adapté pour toute la famille, continue sa note. C'est une source de protéines abordable, alors même que le prix de la viande, par exemple, reste élevé pour de nombreux Français. En 2025, chaque Français à manger l'équivalent de 235 œufs en incluant ceux utilisés dans les produits cuisinés et la consommation à l'extérieur du domicile. La ministre veut plus de poulaillers. La ministre française de l'Agriculture reconnaît le problème. La raison est simple, la production française ne suffit plus à répondre à la demande, a résumé Annie Genevard dans une vidéo mise en ligne sur son compte Facebook. Si la France ne produit plus assez d'œufs pour les Français, c'est que des règles trop nombreuses, beaucoup trop contraignantes, freinent les installations de poulaillers dans le pays. Elle promet une révolution, un grand ménage dans l'encadrement administratif de cette industrie afin de faciliter l'installation de 400 poulaillers supplémentaires d'ici 2030 sur le territoire national. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Plusieurs projets, déjà sur les rails, sont englués dans des contestations judiciaires de futurs voisins mécontents. il faut que les Français acceptent que l'on construise des poulaillers, a ajouté la ministre au Figaro. Pour certains d'entre eux, qui connaissent mal le sujet, le poulailler est un lieu où on maltraite les animaux. Ajoutez à cela les impacts de la grippe aviaire qui continue à forcer l'abattage épisodique de volailles dans les poulaillers français et une météo difficile qui a perturbé les livraisons et vous obtenez le résultat actuel. Des éleveurs aux conditionneurs, tous les maillons sont mobilisés pour rétablir l'ordre et répondre à la hausse structurelle de la demande, a assuré le Comité national pour la promotion de l'œuf, qui représente l'ensemble de la filière dans un communiqué. Le deuxième syndicat agricole de France en importance, la coordination rurale près de l'extrême droite, a même demandé un retour aux cages dans les poulaillers pour accroître la production d'œufs. L'arrêt progressif des cages fragilise l'outil de production et impose des investissements lourds, assure l'organisation. Cette méthode d'élevage est interdite en France pour les nouvelles installations depuis 2018, mais plusieurs producteurs profitent toujours d'une clause de droits acquis. C'était « Ruée vers l'œuf au pays du soufflé », un texte de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Désir grouillant de vie, les incroyables stratégies d'adaptation face aux conditions extrêmes. Un texte de la rédaction de Science et Vie, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de France, paru le 23 octobre 2025 dans Science et Vie. Lézards capables de faire remonter l'eau par capillarité, plantes cailloux cachés sous terre, crapauds attendant la pluie des années, les déserts constituent des laboratoires spectaculaires de l'évolution. L'exposition « Déserts » du Muséum national d'histoire naturelle nous fait voyager dans ces écosystèmes extrêmes où animaux et végétaux déploient des trésors d'ingéniosité de l'Arctique à l'Atacama. Une plongée scientifique et ludique dans l'art de l'adaptation à découvrir jusqu'au 19 avril 2026 à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Capter et conserver l'eau. L'accès à l'eau est l'enjeu primordial de toute forme de vie dans le désert. Et si certaines plantes sont capables de faire plonger très profondément leurs racines, ce n'est pas nécessairement la stratégie optimale. Des réseaux racinaires latéraux et ramifiés, très étendus dans la couche la plus superficielle du sol, sont aussi très efficaces pour capter l'eau en milieu aride. Citation : Il faut pouvoir capter l'eau de la rosée ou du brouillard. Fin de citation, développe Denis Larpin, responsable scientifique des collections végétales tropicales des jardins botaniques du Muséum, l'un des commissaires scientifiques de l'exposition « Déserts ». Citation, cela peut aussi se faire par les tiges et les feuilles. Fin de citation, via les stomates, des pores permettant des échanges gazeux entre l'air et la plante ou encore des poils spécialisés. Dans le règne animal, le moloch, ou lézard à cornes, parvient à faire remonter l'eau par capillarité. Citation, dès que le sol est assez humide, il va baisser la tête et faire remonter l'eau via ses pattes vers la bouche. Fin de citation, détaille son collègue Anthony Herrel, directeur de recherche CNRS, spécialiste en anatomie comparée, morphologie fonctionnelle et biologie de l'évolution au Muséum. Certains coléoptères optent pour une position similaire en haut des dunes pour récolter le brouillard condensé sur leur abdomen avant de le laisser s'égoutter vers leur bouche. Une fois l'eau captée, il faut la stocker, spécialité des cactus. Mais pas seulement. Citation, on retrouve des procédés proches dans le monde animal, notamment avec des réserves de graisse qui vont permettre de produire de l'eau métabolique, ajoute Anthony Herrel. C'est le cas des grands mammifères, comme les chameaux, mais aussi, par exemple, du lézard fouette-queue. Fin de citation. une queue justement remplie de gras, transformée au besoin en eau par le métabolisme du saurien. Citation : Les herbivores vont naturellement puiser l'eau directement dans la nourriture, notamment dans des graines stockées en sous-sol qui donneront une source d'eau en période de sécheresse. Fin de citation, explique le commissaire de l'exposition des airs. Stratégie utilisée notamment par le rat kangourou qui réhydrate ses graines dans son terrier humide avant de les consommer. Résister aux températures extrêmes. Pour les mammifères, la fourrure constitue une protection ultime en milieu polaire. Celle de l'ours blanc, qui va jusque sous ses pattes, retient la chaleur corporelle via des poils creux remplis d'air qui vont retenir les rayonnements infrarouges émis par la peau de l'animal. En dessous, sa patte noire, et oui, absorbe la chaleur du soleil, alors qu'une couche de graisse pouvant atteindre 10 cm complète la protection. Ainsi, entre l'air ambiant et l'intérieur du pelage, l'écart de température est de plusieurs dizaines de degrés sur une quinzaine de centimètres de fourrure. Une capacité de rétention des émissions infrarouges qu'on retrouve chez les renards ou le lièvre arctique. À l'inverse, dans le Sahara, la fourmi argentée va dissiper sa chaleur corporelle sous forme de rayonnement infrarouge grâce à ses soies particulières. Une méthode qui lui permet de sortir aux heures chaudes quand les prédateurs sont au repos pour se nourrir. Mais seulement quelques minutes, sans quoi elle meurt. L'enfouissement est une autre solution. Citation : Certaines plantes sont en partie enfouies dans le sol pour se protéger des températures extrêmes. C'est le cas des plantes cailloux, comme les lithopes présentées dans l'exposition. Fin de citation, détaille le botaniste Denis Larpin. Les spécimens présentés ne laissent émerger que leurs petites feuilles, dotées à leur extrémité d'un tissu transparent qui laisse passer la lumière jusqu'au chloroplaste situé sous la surface du sol. La photosynthèse peut alors se faire dans de meilleures conditions, c'est-à-dire, étonnement, à l'abri direct du soleil. Chez les animaux, la vipère des sables ou des insectes s'enfouissent également pour perdre quelques degrés aux périodes les plus chaudes. S'adapter à une autre temporalité. Dans le désert, tout est question de timing pour trouver la période la plus propice à la recherche de nourriture, généralement la nuit, ou à la reproduction. Citation : Certains animaux vont utiliser une stratégie d'évitement des conditions extrêmes pour n'être actifs que lors de conditions favorables, quand la pluie arrive. Fin de citation, explique Anthony Herrel. C'est le cas du crapaud pied en bêche qui creuse dans le sol et attend dans un cocon toute l'année. Citation : Quand il pleut enfin dans le désert d'Arizona, c'est une véritable explosion de vie, des milliers de ces grenouilles vont sortir, se reproduire dans les mares temporaires et dérouler tout leur cycle de vie en 2 semaines. Les têtards naissent, se métamorphosent, puis les petits creusent le sol et attendent la prochaine pluie. 1, parfois 2 ans plus tard. Fin de citation. Il en va de même pour des plantes au cycle de vie spécifique, comme le décrit Denis Larpin. Citation : Comme les animaux qui peuvent rester au repos jusqu'au retour de périodes plus fraîches ou pluvieuses, certaines plantes dites éphémères vivent sous forme de graines dans le sol en attendant les pluies des mois ou des années. Lorsque ça arrive, la germination se fait très rapidement. Fin de citation, ajoute le botaniste qui montre ensuite une rose de Jéricho. À première vue, une boule sèche et morte. Mais même morte et déshydratée, elle abrite des graines vivantes. À l'arrivée de la pluie, les rameaux de la plante se déploient de façon mécanique et les graines peuvent germer. Un nouveau cycle commence. C'était, des déserts grouillants de vie, les incroyables stratégies d'adaptation face aux conditions extrêmes. Un texte de la rédaction de Science et Vie, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de France, paru le 23 octobre 2025 dans Science et Vie.
Plus de femmes sur les conseils d'administration, mais pas à la haute direction. Une dissonance coûteuse pour les entreprises. Un texte de Louise Champoux-Payet et Anne-Marie Croteau, paru le 8 décembre 2025 dans La Conversation. 10 ans après les premiers engagements pour une meilleure parité dans les conseils d'administration, les femmes restent largement absentes des postes de direction. Une dissonance qui fragilise la gouvernance et freine l'innovation au sein des organisations. Dans le dernier rapport des autorités canadiennes de valeurs mobilières sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs des conseils d'administration et de membres de la haute direction, on y note que la présence féminine dans les CA s'est progressivement améliorée au cours des 10 dernières années pour atteindre 29 % Pendant ce temps, la présence féminine aux postes de haute direction est demeurée des plus modestes, 5 % pour les postes de chef de la direction et 16 % pour ceux de chef des finances. Mentionnons en outre que, toujours en 2025, près de 40 % des entreprises ne comptent aucune femme au sein de leur haute direction. L'écart entre ces deux types de fonctions stratégiques dans les organisations sur le plan international reflète la même situation. 36 % au CA, 12,2 % à la haute direction et 6,5 % comme chef de la direction. Sue Duke, responsable de la politique publique mondiale chez LinkedIn, décrivait la problématique en ces termes. Alors que l'économie mondiale se transforme, que l'IA s'accélère et que les pays cherchent à lutter contre la stagnation de la croissance, ce déficit de leadership devrait déclencher la sonnette d'alarme. Dissonance entre représentation féminine au CA et à la haute direction. Le conseil d'administration et l'équipe de haute direction sont deux organes intimement liés. Le premier voit à la supervision et aux orientations stratégiques d'une organisation, tandis que le second s'occupe de leur réalisation concrète. Or, la dissonance entre la composition d'un conseil d'administration et celle d'une équipe de haute direction peut entraîner des dysfonctionnements sur la gouvernance, la vision, les décisions stratégiques, la culture et autres dimensions corporatives. Ainsi, une orientation paritaire dans la promotion et le recrutement d'employés approuvés par le conseil d'administration pourrait rencontrer des obstacles dans sa réalisation. On peut également penser qu'une orientation inclusive retenue par un conseil d'administration mixte pourrait difficilement trouver une oreille attentive au sein d'une haute direction homogène, celle-ci ne pouvant être sensible ou ne voyant pas concrètement les avantages d'une mixité dans la composition de la main-d'œuvre. Enfin, on peut estimer, à titre d'exemple, que la transformation requise pour l'implantation d'une culture organisationnelle inclusive pourrait être moins bien appuyée ou effectuée avec moins de conviction par une haute direction non mixte. Avantages d'une masse critique de femmes à la haute direction. La diversité de genre stimule l'innovation, améliore la prise de décision et renforce la résilience organisationnelle. Déjà en 2016, une étude publiée par le National Bureau of Economic Research, NBER, indiquait que le leadership féminin améliore la performance des entreprises, en particulier lorsque la proportion de femmes dans la main-d'œuvre est élevée. Des études plus récentes confirment les bénéfices tangibles d'une plus grande parité dans les équipes de direction. Un rapport de 2023 de McKinsey & Company démontre que les entreprises ayant une diversité de genre dans leur haute direction affichent une performance financière supérieure, une culture organisationnelle plus saine et un impact social accru. Autant une masse critique de femmes au sein des conseils d'administration permet d'améliorer la prise de décision et la vision par les perspectives complémentaires qu'elles peuvent apporter, autant une présence accrue au sein de la haute direction d'une organisation a des effets bénéfiques sur le plan de sa gouvernance. Une organisation favorisant cette forme de parité est reconnue pour sa capacité d'innovation, une gestion des risques plus prudente, une performance financière plus résiliente, une plus grande ouverture au changement et à l'innovation, de même qu'une culture organisationnelle plus inclusive. Vers l'imposition de quotas. La sous-représentation des femmes à des postes de haute direction est préoccupante et ne semble pas évoluer à la hauteur des talents disponibles. Sur un horizon d'un peu plus de 5 ans, le nombre de femmes occupant le poste de chef de la direction est demeuré relativement le même, tout comme le pourcentage de femmes occupant les fonctions de chef des finances en 2024. Par ailleurs, le pourcentage d'entreprises qui, selon ce même rapport, s'engagent à se fixer des cibles à atteindre en regard de la mixité de leurs équipes de direction était de seulement 7 % en 2024, comparativement à 44 % pour les conseils d'administration. Pour assurer la survie de nos organisations dans un monde complexe et incertain, il est impératif de s'extirper de la composition traditionnelle de nos conseils d'administration et des équipes de direction constituées majoritairement d'hommes ayant des profils similaires. Il faut une plus grande mixité d'hommes et de femmes avec des parcours diversifiés, ouverts aux nouvelles idées et centrés sur les besoins de l'ensemble des parties prenantes. L'idée d'imposer des quotas au sein des équipes de direction commence à faire son chemin à l'international. En France, une loi adoptée en 2021 impose aux entreprises de plus de 1 000 employés d'atteindre 30 % de femmes dans les équipes de direction d'ici 2027 et 40 % d'ici 2030. Cette mesure législative semble déjà produire des effets positifs car une analyse récente de l'EDHEC Business School indique que les quotas ont contribué à améliorer la perception des actionnaires envers les femmes dirigeantes en France. Dans cette optique, vu l'urgence de la situation et le peu d'appétit de nos organisations pour la fixation de cibles en regard de la haute direction, des quotas s'imposent au niveau des équipes de direction afin de compter sur le levier stratégique nécessaire pour assurer la pérennité de nos organisations. Un levier stratégique incontournable. Comme l'avance le Collège des administrateurs de sociétés dans son livre blanc intitulé « Vers un cadre élargi de gouvernance », les crises systémiques qui marquent notre époque exigent une redéfinition de la création de valeur. Celle-ci ne peut plus se limiter à des indicateurs financiers traditionnels, mais doit s'ancrer dans une vision élargie de la pérennité organisationnelle et de ses écosystèmes. Dans cette perspective, la parité au sein des équipes de direction devient un levier stratégique incontournable. Elle enrichit la gouvernance en favorisant des décisions plus nuancées, une meilleure gestion des risques, une plus grande capacité d'innovation et une culture organisationnelle plus inclusive. La diversité des profils, notamment en matière de genre, permet de mieux répondre aux attentes des parties prenantes et de renforcer la légitimité sociale des entreprises. Ainsi, au rôle classique de conformité et de stratégie s'ajoute désormais une responsabilité élargie, celle de bâtir des organisations résilientes, équitables et durables, capables de créer de la valeur pour l'ensemble de leur écosystème. La parité, loin d'être un simple objectif de représentation, devient une composante essentielle de cette nouvelle gouvernance. C'était « Plus de femmes sur les conseils d'administration, mais pas à la haute direction », une dissonance coûteuse pour les entreprises. Un texte de Louise Champoux-Payet et Anne-Marie Croteau paru le 8 décembre 2025 dans La Conversation.
Un service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne. Santé IPE lance le tout premier programme de jour pour adultes en français de la province. Conçu pour les personnes âgées francophones et bilingues, ainsi que pour leurs proches aidants, ce service offre un milieu d'accueil et de soutien taillé aux besoins de tous. Le programme est offert au centre communautaire d'Abraham Village, ancien Club 50, situé au 8938 route 11 à Abraham Village. Les activités s'y déroulent du lundi au jeudi de 8h à 16h. Pour Lisa Gotel, responsable des projets francophones à Santé IPE, l'ouverture de ce service est une étape importante. C'est un service qui est enfin offert en français pour les résidents du comté de Prince, de Stanley Bridge à Tignitch, souligne-t-elle. Les personnes inscrites au programme de soins à domicile peuvent s'adresser à leur coordonnateur. Les autres peuvent faire une demande en ligne ou par téléphone pour enclencher le processus d'inscription. « Notre objectif, dit-elle, est d'aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Ça aidera à alléger la charge des hôpitaux et soutenir les proches aidants. » Une évaluation des besoins suit chaque demande afin d'adapter les services au profit de chacun. Par exemple, si une personne doit s'absenter pour faire l'épicerie et ne peut pas laisser son conjoint seul à la maison, elle peut le confier au centre. Grâce aux bénévoles de l'Association des francophones de l'Âge d'or de l'Île-du-Prince-Édouard, un transport peut aussi être organisé si nécessaire, ajoute Mme Gottel. Les personnes vivant seules ou à risque d'isolement sont aussi invitées à se joindre aux activités. Le programme offre un milieu accueillant et stimulant où les échanges sont toujours enrichissants. On y propose des activités comme de l'artisanat, des exercices légers et de la stimulation cognitive. Chaque visite inclut une collation et un repas chaud offerts sans frais aux participants. Nos préposés sont formés pour offrir un appui attentif et respectueux, précise Mme Gottel. Ce programme améliore la qualité de vie des participants et offre aux proches aidants le répit dont ils ont besoin. Il répond surtout à un besoin exprimé depuis longtemps, avoir accès à des services de santé dans sa langue. Le programme s'adresse aux personnes francophones ou bilingues âgées de 65 ans et plus. Les demandes se font en contactant soit le bureau du programme de soins à domicile du comté de Prince au 902-888-8440 ou en remplissant un formulaire d'inscription sur le site de Santé IPE. Pour Lisa Gottel, ce projet répond à une demande. Offrir des soins qui respectent les besoins des habitants francophones et bilingues de l'île. C'est une façon concrète d'aider nos aînés à vivre mieux, près de chez eux et en français. C'était un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne.